Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
La contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter une grossesse. Il en existe de nombreuses. Alors, comment choisir celle qui nous convient le mieux? Tout dépend de la situation amoureuse, familiale, professionnelle et de l'état de santé dans lequel on se trouve. Alors, le choix doit permettre le meilleur compromis possible entre efficacité, sécurité et simplicité. Les moyens de contraception sont donc nombreux en France et concernent à la fois les hommes et les femmes. Le ministère de la Santé a lancé un nouvel outil d'information pour choisir sa contraception. On en parle avec nos invités. Delphine Raïb est chargée d'études sur la santé sexuelle chez Santé publique France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également Rukiatou Sissoko, conseillère conjugale et familiale auprès de l'association Espace 19 au pôle santé médiation de l'association Espace 19 à Paris dans le 19e arrondissement. Et nous rejoint au téléphone Jean-Charles Wognien, il est sage-femme, échographiste à l'hôpital universitaire de Lausanne et a travaillé également en Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout d'abord Delphine Raïb, est-ce que vous pouvez nous présenter ce nouvel outil d'information pour choisir sa contraception, qui s'appelle d'ailleurs Choisir sa contraception. Bienvenue, bonjour. Alors juste, on ne vous entendait pas. Allez-y, normalement, ça devrait aller mieux. Allez-y, recommencez, bonjour.
Bonjour. Donc, je disais que l'outil Choisir sa contraception, c'est un outil qui est en ligne et qui va servir à avoir une information qui est personnalisée sur les contraceptions qui sont disponibles et celles qui conviennent à sa situation. Comment il se présente? C'est un questionnaire qui va faire une vingtaine de questions. Pour le remplir, c'est un peu moins de 10 minutes et on va passer au travers de différentes phases sur qui est la personne, quelles sont ses préférences et ses expériences avec la contraception qu'elle a déjà eue et quelle est sa situation de santé.
Delphine Raïb, à qui s'adresse principalement ce nouvel outil d'information concernant la contraception?
Il s'adresse globalement à tous, mais on peut dire que plus spécifiquement, il va aller apporter une information un peu plus fine à des personnes qui vont s'interroger sur leur contraception ou des personnes qui vont préparer une consultation. Actuellement, le questionnaire, il est construit plutôt pour les femmes, c'est-à-dire qu'on va avoir une réponse et des questions qui sont posées plutôt comme si on était une femme. Toutefois, si on est un homme, ça n'empêche pas de se mettre dans la situation de sa partenaire ou de ses partenaires pour essayer de voir un peu les méthodes de contraception qui sont disponibles et qui sont adaptées à la situation dans laquelle on est.
Alors ces dernières années, on a vu une nette évolution des propositions de moyens de contraception en France. Est-ce qu'il y avait un flou en fait? Pourquoi avoir décidé de lancer cet outil d'information?
Les outils de contraception, en effet, ils sont nombreux. Les outils en eux-mêmes ont évolué et la façon d'y accéder a évolué également. On a eu aussi des polémiques, des histoires médiatiques avec des moyens de contraception comme la pilule, comme Essure, qui apportaient un petit flou dans l'information qui pouvait être disponible. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de condenser cette information et d'y rentrer par ce qui était intéressant pour les gens en leur posant des questions et en leur faisant se poser des questions qui va leur permettre de vraiment déterminer ce qui est important pour eux, ce que les personnes veulent, ce qu'elles ne veulent pas, et ainsi condenser l'information qui était très dense sur choisir sa contraception dans une information personnalisée et hiérarchisée.
Alors, quelle est l'évolution des moyens de contraception en France? Est-ce que vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas de bon et moins bon moyen de contraception, mais que chaque femme doit trouver le bon pour elle?
Chaque femme, chaque personne, chaque couple, et les hommes aussi sont concernés par la contraception, va avoir des contraceptions qui vont plus ou moins leur convenir et qui peuvent évoluer au cours de la vie. Et c'est ça qui est important, et c'est dans ce cheminement que s'inscrit l'outil Choisir sa contraception, c'est qu'on peut avoir une contraception qui nous convient à un moment. Oui. Et on évolue. Et la contraception peut évoluer avec soi. Mais pour ça, il faut encore se réinterroger. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on veut adapter? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Et on a vu qu'avec les déremboursements et avec les nouvelles préoccupations autour de la contraception, des personnes évoluaient plutôt vers le dispositif intra-utérin, d'autres revenaient au préservatif. Et c'est pour accompagner ces changements qu'on a construit cet outil, Choisir sa contraception.
Alors, Okiata Sissoko, est-ce que vous conseillez justement cet outil d'information aux personnes qui viennent vous voir pour des questions autour de la contraception?
Oui, bien sûr, nous les conseillons, parce qu'en fait, quand ils viennent nous voir, bien sûr, ils n'ont pas encore d'idée peut-être de quelle contraception choisir. Donc du coup, on les incite et on leur dit que c'est des moyens vraiment fiables.
Alors comment vous avez, il faut rappeler que l'association Espace Paris, Espace 19, qui est basée dans le 19e arrondissement de Paris, reçoit de nombreuses familles d'origine africaine. Alors comment abordez-vous la question de la contraception auprès de ces familles?
Ben, comment on aborde la contraception? En fait, il est vrai que maintenant, un accès vraiment qui est très ouvert au niveau de tout ce qui est planification, parce que de plus en plus maintenant il n'y a pas besoin la carte vitale n'est pas indispensable pour pouvoir accéder à la planification. Donc nous on les aide en les orientant le mieux sur les centres de santé avec lesquels nous travaillons, bien sûr.
Alors Jean-Charles Wounier, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes sage-femme échographiste à l'hôpital universitaire de Lausanne. Vous avez travaillé également en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il existe ce genre d'outil d'information utilisé en Côte d'Ivoire? Et est-ce que vous connaissez ce nouvel outil d'information, Choisir sa contraception?
Bonjour Aïssa et Nadir. Alors non, je ne connaissais pas encore cet outil d'information, mais il faut dire que c'est très bien pensé. Le problème de la contraception, c'est que souvent les femmes n'ont pas d'information là-dessus. Et même quand elles ont une information, cette information n'est pas juste. Donc c'est bien qu'en amont de la consultation, et puis se faire une idée, et puis qu'on puisse préciser ces choses-là pendant la consultation. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore ce type d'outils. C'est des choses effectivement à penser. Et puis, quand on voit aussi la difficulté qui se trouve en Côte d'Ivoire, notamment le nombre de femmes qui ne savent ni lire ni écrire, on comprend que ce genre d'outil ne va viser seulement qu'une partie des femmes. Il faut encore aller plus loin avec des méthodes de sensibilisation qui sont proches des populations rurales.
Alors justement, les femmes disposent de nombreuses méthodes de contraception. Quelles sont celles qui sont le plus utilisées en Côte d'Ivoire, selon vous, Jean-Jacques Wounier?
Alors en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de chiffres exacts là-dessus, mais mon expérience pratique me fait dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui utilisent les contraceptifs de type injectable et la pilule classique.
Oui.
Les contraceptifs de type stérilé et implants sont relativement peu utilisés, notamment du fait de leur coût, et puis parce que aussi le fait d'avoir des corps étrangers, ça réveille pas mal de comment on va dire ça, de sujets en fait un petit peu de l'ordre de, comme, aidez-moi un petit peu,
des réticences en fait,
des superstitions, c'est le mot que je cherchais.
D'accord.
Le fait d'avoir des corps étrangers, ça réveille des superstitions.
D'accord. Delphine Raïb, donc les femmes disposent en effet de nombreuses méthodes de contraception. Quelles sont les méthodes, quelles sont les méthodes les plus efficaces et celles, d'après votre constat, qui sont le plus utilisées actuellement?
En France, dans la population générale, les méthodes les plus utilisées, ça va être le préservatif en début de vie sexuelle, puis après la pilule, et après un ou plusieurs enfants, généralement on va s'orienter vers le dispositif intra-utérin. Tout cela, c'est assez cadrée, et c'est là où parfois ces propositions ne peuvent pas convenir à certaines personnes. Et quand une proposition ne convient pas, ça diminue son efficacité. Parce que si on n'arrive pas à prendre correctement sa méthode, ou si on n'en est pas sûr qu'on n'a pas confiance, eh ben, on va moins bien l'utiliser et on va être plus sujet au risque d'erreur et donc aux grossesses non prévues. Bien sûr, les méthodes qui, du coup, vont paraître le plus efficaces, c'est celles pour lesquelles il va y avoir le moins de risques d'utilisation, et donc celles qui vont être à long terme, mais elles peuvent ne pas convenir à tout le monde. C'est le cas du dispositif intra-utérin, de l'implant, oui. Mais certaines femmes ne souhaitent pas ces moyens de contraception, elles peuvent se reporter vers d'autres, la pilule, le préservatif, qui, si il leur convient, oui, va être plus efficace.
Alors, ce que vous dites, c'est que à chaque femme, sa contraception. En fait.
À chaque personne, à chaque femme, chaque personne, couple,
oui, chaque homme, chaque homme, oui, c'est vrai.
Les parce hommes qu'il y a aussi les hommes, peuvent maîtriser leur fertilité. Donc,
d'accord. Ouais. Alors justement concernant les hommes, alors quelles sont les méthodes les plus utilisées, les plus efficaces aussi, si on peut parler d'efficacité.
Au niveau des méthodes de contraception dites masculines, c'est-à-dire qui vont être utilisées par les hommes, il y a un choix qui est plus restreint que celui des méthodes dites féminines. Donc on a le retrait, le préservatif masculin, la stérilisation. On a aussi d'autres méthodes en France qui sont assez peu utilisées sur des contraceptions un peu plus dites naturelles, comme pour les contraceptions naturelles des femmes. Globalement, c'est le préservatif masculin qui est le plus utilisé, parce que c'est celui qui est le plus disponible, qui est le plus accessible, et qui, dans l'image collective, est le plus reconnu. On n'a pas beaucoup de contraception définitive, la stérilisation, chez les hommes en France, alors que dans d'autres pays, c'est extrêmement répandu.
Alors, Rukiatou Sisoko, la femme africaine au sein de beaucoup de cultures est la seule responsable de la contraception en France. A-t-elle souvent des problèmes d'accès aux services de planification familiale ou vient-elle facilement ?
Oui, comme je disais tout à l'heure, il est vrai qu'en France, l'accès aux services de planification est facilité aujourd'hui car la carte vitale n'est pas indispensable. La femme, elle peut consulter sans que son mari le sache. L'accès à la planification et aux services est vraiment très fluide. Par contre, il y a trois éléments qui peuvent empêcher une femme africaine de faire ce pas. Tout d'abord, la représentation que ces femmes se font de la contraception. Le plus souvent, la contraception est associée à un problème de religion. On va avoir une femme qui va dire prendre une contraception, c'est tuer un enfant. Ou alors, elle va dire, c'est Dieu qui donne les enfants, Dieu nous donnera les enfants qu'il voudra et il va nous donner de quoi les nourrir.
Oui, oui.
Donc, c'est plutôt ça. Et il y a un autre deuxième point aussi qui va faire le frein, c'est l'accès à la langue, le problème de langue qui va faire que la femme, elle va avoir du mal à prendre rendez-vous, à aller consulter. Et aussi le problème aussi de quand c'est un gynécologue homme ou ça peut être aussi un frein.
D'accord. Et donc vous rencontrez ces difficultés auprès des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir et qui disent qu'on ne peut pas aborder cette question au sein de mon couple, au sein de mon foyer? Et qui viennent trouver chez vous un message et des réponses?
Oui, bien sûr, parce que comme on le sait, la contraception et tout ce qui touche à la sexualité, c'est quelque chose de tabou, que ce soit dans la communauté africaine ou autre. Ouais. Et donc, du coup, elles ont du mal à pouvoir en parler. Elles viennent nous voir parce qu'on les met dans un climat de sécurité. Donc, elles savent qu'elles peuvent se livrer. Donc, du coup, elles nous posent des questions sur ça. Oui. Ouais.
Jean-Charles Wonier, en tant que sage-femme, est-ce que vous rencontrez aussi ces problèmes, ces difficultés?
Oui, tout à fait. Les questions, comme elle a dit, de contraception et de sexualité sont tabous. On le voit au sein de la communauté africaine en Europe, en France, mais c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Donc nous, on est confrontés à ça. Sur le terrain en Côte d'Ivoire, on s'attelle à mettre les femmes dans un climat de confiance. C'est très important pour qu'elles puissent en parler. Il faut noter aussi que, en plus des questions de religion, de coutumes, etc., les hommes ont aussi représenter un frein à l'accession des femmes à la contraception. On a le cas de certaines femmes qui n'emportent pas leur carnet de suivi à la maison, qui le laissent chez la sage-femme de peur que le mari ne découvre qu'elle utilise un moyen de contraception. Certains hommes vont jusqu'à répudier leur femme parce qu'ils découvrent qu'elles utilisent des moyens de contraception. Donc ça, c'est vraiment des axes sur lesquels il faut travailler et inclure aussi les hommes dans la sensibilisation.
Alors justement, comment faire pour que ces hommes se sentent concernés par la contraception de leurs femmes et comment les aider à mieux comprendre à quoi cela consiste, Jean-Charles Wonien, selon vous ?
Pour ma part, je pense qu'il faut vulgariser l'information, il faut la rendre accessible au grand public. Donc le grand public, ça va toucher aussi les hommes. Et il faut pouvoir, dans certains contextes, dans certains milieux, en fait, pouvoir aborder cette question pour aller au plus près des hommes. Voilà. Et inciter les hommes à venir avec leurs femmes, avec leurs compagnes, aux consultations de planning familial, aux consultations prénatales, voire même trouver des moyens pour que les professionnels se déplacent au domicile. Ça peut être fait dans les milieux ruraux, par exemple, avec des assistants aux soins communautaires qui peuvent se déplacer dans les cours, parler aux gens et puis essayer d'apporter cette médiation-là.
Rukiatou Sissoko, est-ce que vous aussi, vous avez affaire à des hommes au sein de l'association ?
Oui, nous avons affaire à des hommes quand dans les ateliers sociolinguistiques que nous organisons. Moi, quand j'interviens dans ces ateliers-là, souvent je fais des thèmes sur la contraception ou la prévention des IST. Oui. Et le plus souvent, les groupes sont normalement mixtes, mais je remodèle les groupes parce que j'ai remarqué que la parole, elle est plus fluide quand c'est des groupes d'hommes à part et des groupes de femmes à part. Et souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les hommes posent beaucoup de questions sur le corps de la femme, sur comment ça fonctionne chez la femme, et pose des questions sur les moyens de contraception. Donc du coup, moi, ce que je fais, je leur montre un schéma de l'appareil reproducteur de la femme, je leur montre des moyens de contraception comme la pilule, le stérilet, l'implant, tous les moyens de contraception. Et même avant le Covid, je les faisais toucher les moyens de contraception, pour qu'ils puissent plus percevoir ces moyens-là. Et ce qu'on fait aussi au niveau de la prévention auprès des adolescents, c'est très important aussi, toutes les animations scolaires qu'on fait dans les lycées et les collèges. Moi, j'interviens dans le 19e arrondissement. Et cela permet notamment aux jeunes garçons de se sentir concernés et d'aborder plus facilement avec leurs copines ou plus tard avec leurs épouses des questions sur les règles, la contraception et tout ça.
Delphine Raïb, donc vous avez présenté, c'est un nouvel outil d'information sur la contraception. Est-ce que aussi l'objectif pour vous, c'est de balayer toutes les idées reçues concernant la contraception, et quelles sont ces principales idées reçues ?
L'objectif de l'outil en lui-même n'est pas vraiment basé sur les idées reçues, mais c'est sûr qu'en allant chercher une information qui va être personnalisée, pour laquelle vous allez avoir, pour chaque moyen de contraception, les avantages et les inconvénients par rapport à votre situation, ça va aider à déconstruire ces idées reçues. Les idées reçues, elles sont nombreuses sur le dispositif intra-utérin, par exemple. Il faut savoir qu'un dispositif intra-utérin ne rend pas stérile. Oui. La pilule ne rend pas stérile. Ça, c'est l'idée majeure qu'il y a sur les moyens de contraception, c'est le fait qu'en prenant une contraception, on ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Ce n'est pas le cas, à part pour la contraception définitive, qui est bien précisée avec un processus assez conséquent. Les idées reçues, elles peuvent être nombreuses et elles vont être vraiment adressées en fonction des personnes par une discussion avec un professionnel de santé, puisque cet outil qu'on a mis en place, cet outil choisir sa contraception, il ne remplacera pas un dialogue avec un professionnel de santé, une sage-femme, une conseillère familiale, un gynécologue, un médecin.
D'accord. Jean-Charles Le Wonien, quelles sont les principales idées reçues que vous que vous combattez, par exemple, que vous dénoncez principalement concernant la contraception ?
Alors, il y a cette idée-là, effectivement, que la contraception, quelle qu'elle soit, rend stérile, que c'est un instrument venue des pays européens qui ne correspond pas à la culture africaine, que ce sont des méthodes qui sont pour les croyants, que ce sont des méthodes hérétiques. Donc il y a comme ça toute une panoplie de d'idées reçues que nous allons combattre. Il y a aussi le fait que le dispositif intra-utérin cause des grossesses extra-utérines. Donc on essaie d'appuyer notre argumentaire sur des études, sur l'expérience professionnelle, et puis c'est comme ça qu'on mène ce débat-là.
Oui.
Un mot sur l'accessibilité sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire de ces moyens de contraception. Est-ce qu'il y a, comme en France, des structures, du planning, planning familial par exemple, où les femmes peuvent se rendre déjà pour avoir des conseils auprès de professionnels et se procurer leurs moyens de contraception, Jean-Charles Wounien?
Oui, les centres de planning familial existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Simplement, ils sont inégalement répartis sur le territoire. En général, en Côte d'Ivoire, les structures de soins sont concentrées dans le sud et le sud-est. Et puis, quand on va vers le nord et vers l'ouest, on a beaucoup moins de centres de santé. Donc ça, c'est un premier frein à l'accès global à la contraception en Côte d'Ivoire. Et puis, pour certaines méthodes de soins de contraception comme le stérilet et l'implant, le prix peut être quelquefois prohibitif pour certaines femmes, oui.
Ouais. Rukyatou Sissoko, est-ce que la plus grande difficulté que vous rencontrez, c'est le manque de dialogue sur ce sujet au sein des familles?
Oui, le manque de dialogue, c'est un des sujets importants. Ouais. Au niveau des familles, comme je disais, tout ce qui concerne la sexualité et la contraception, c'est quelque chose qui est très tabou. Donc du coup, souvent les parents, les mamans viennent me voir en disant « mais moi je sais pas comment je peux parler à ma fille de sexualité ». Et souvent, moi, je leur dis que c'est important de pouvoir créer un climat de dialogue avec sa fille, de parler des règles à sa fille, parce que parfois, ce qui se passe, c'est que les jeunes filles, aux premières règles, elles sont paniquées, elles sont en pleurs. Oui. Et heureusement que parfois, donc, elles vont en parler, celles qui sont au collège, aux infirmières scolaires. Oui. Et là, elles peuvent les aider. Donc c'est important d'instaurer un dialogue bien avant avec les jeunes filles.
Delphine Raib.
Oui, nous on a remarqué aussi que dans certaines familles, la parole sur la sexualité pouvait se faire très librement. Dans d'autres, c'était plus difficile. Et juste parce que parfois, c'est difficile pour les parents de parler de sexualité, même s'ils ne sont pas opposés à ce que leur enfant ait cette information. Et on a développé un site qui s'appelle On s'exprime, qui est à destination des adolescents, ouais, et qui va aborder ces questions autour du changement du corps, des premières fois, de la contraception, des premiers émois amoureux, et qui va aider à faire passer cette information en diminuant un peu le climat de malaise qu'il peut y avoir dans les familles où chacun va aller chercher son information.
Alors justement, Rukyatou Sissoko, quels sont les conseils que vous donnez justement aux mamans, aux parents ou, qui viennent vous voir sur ce sujet justement de la communication et le fait de pouvoir essayer d'informer leurs enfants sur le changement de leur corps?
Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je leur dis que la première chose à faire, c'est de commencer à parler de règles aux filles. Souvent, comme je disais, elles sont paniquées. Donc, le fait de parler de règles et que le fait d'amorcer la discussion, on va pas aller jusqu'à parler de sexualité parce que je sais que on a un long chemin à faire pour que ça soit très fluide dans certaines familles africaines. Mais le fait de parler des règles, de leur dire que le jour où elles ont les règles, qu'elles peuvent venir en parler, que c'est pas grave et que elles sont là pour les écouter parce qu'elles ont un rôle privilégié justement, les mamans, pour expliquer qu'il faut mettre un tampon ou que voilà, ou une serviette hygiénique, ça c'est très important.
Et justement, les jeunes filles qui viennent vous voir, quelles sont leurs principales préoccupations et leurs questions sur la contraception?
Ben, leur principale préoccupation, c'est que elles évoquent le fait d'avoir peur de parler de ça à leurs parents.
Ouais.
Donc, elles ont peur de parler de ça à leurs parents. Souvent, le plus souvent, les jeunes vont aller sur les réseaux sociaux, sur Internet pour pouvoir se renseigner. Et comme je disais tout à l'heure, c'est bien de discuter avec les ados dans les établissements scolaires. Pour qu'ils n'aillent pas chercher des fausses informations, souvent sur des réseaux sociaux.
Jean-Charles Wandien, vous êtes homme sage-femme, et est-ce que vous avez rencontré dans l'exercice de votre profession des difficultés, par exemple des personnes qui sont venues se plaindre parce que vous êtes un homme sage-femme justement ?
Alors, paradoxalement, je n'ai jamais rencontré de difficultés dans l'exercice de mon métier. En Côte d'Ivoire, où je fais quelques missions humanitaires. Par contre, en France, en Europe et en Suisse, où je travaille actuellement, quelquefois, on est confronté au refus de certaines femmes, voire de certains maris, le plus souvent. C'est adossé aux croyances, aux cultures.
Oui.
Personnellement, ça ne me choque pas. J'essaie toujours d'aller un peu dans le sens des couples et des femmes.
Oui.
Et puis leur expliquer que, voilà, nous sommes des professionnels et que nous sommes là pour une mission bien précise.
D'accord, donc c'est beaucoup de pédagogie, hein, c'est ça.
Pardon ?
C'est beaucoup de pédagogie, en fait, de discussion avec...
Beaucoup de pédagogie. J'aimerais rebondir sur ce que Madame Sissoko vient de dire concernant les réseaux sociaux. C'est très important aussi que sur les réseaux sociaux, ces questions-là soient abordées de la bonne façon. C'est la raison pour laquelle je m'investis énormément sur les réseaux sociaux pour démocratiser cette information sur la contraception, l'aborder de la façon la plus simple possible. Et puis, je vois qu'il y a pas mal de femmes qui viennent même en inbox, dans la messagerie, pour poser des questions. Et c'est très utile de le faire.
Alors, Jean-Charles Wounier, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, vous êtes un homme sage-femme. Est-ce qu'il n'y a pas de mots pour nommer les hommes sage-femmes ?
Les hommes sages-femmes donc peuvent être appelés sages-femmes tout simplement parce que le mot sage-femme est un mot invariable.
Oui.
Sage-femme signifie connaissance sur la femme et non une femme qui serait sage. Il y a à côté de ça un mot qui s'appelle maïeuticien, donc qui vient de la maïeutique de Socrate, qui est l'art d'accoucher les esprits.
En tout cas, moi, je vous suis sur les réseaux sociaux et bravo pour le travail d'information et de vulgarisation que vous faites au quotidien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez surtout pas, ça se passe sur Internet, sur www.choisirsacontraception.fr. N'hésitez pas également à vous rapprocher du planning familial pour choisir votre contraception. C'est le moment de marquer la pause. On se retrouve pour la suite. Ambiance Africa arrive dans un instant. Merci.
Merci, au revoir.
Merci à vous, à très bientôt. Dans un instant, Ambiance Africa.